Bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera certes pas à sa tradition, pourquoi commencer maintenant à déroger à la tradition, et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes, c'est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons nous intéresser à un autre art que le cinéma, puisque nous allons évoquer la vie, ou plutôt la filmographie de peintres fameux. La peinture, comme beaucoup d'autres thèmes, comme pratiquement tous les thèmes, a donné lieu à, et a inspiré le cinéma. Et on va s'intéresser à quelques films qui sont des évocations biographiques plus ou moins fidèles de peintres plus ou moins connus. En fait, non, ils sont tous connus. On va commencer par peut-être l'un des plus fameux d'entre eux, Vincent Van Gogh, puisqu'on va écouter un extrait de la bande originale d'un film de Vincente Minnelli tourné en 1956. Et dans les rôles principaux duquel on retrouvait Kirk Douglas et Anthony Quinn. Alors, si l'on veut bien faire abstraction du fait qu'il s'agit d'un film américain avec des acteurs sino-américains, du moins parlant anglais, bien, il faut bien reconnaître que la vie passionnée de Vincent Van Gogh, puisque c'est le titre français du film, en anglais ça s'appelait de façon beaucoup plus évocatrice Lust for Life, c'est-à-dire en gros perdu pour la vie, qui était une façon de traduire de façon, je dirais, plus nette la quête de Vincent, très tourmenté pendant toute son existence jusqu'à son suicide. Donc, si l'on veut bien faire abstraction du fait que tout ça est américain, eh bien ma foi, la vie passionnée de Vincent Van Gogh est une très très belle évocation de la vie du peintre. Kirk Douglas, est-il besoin de le préciser, présente une ressemblance assez frappante avec le peintre. Il suffit de comparer un portrait de Kirk Douglas avec le fameux autoportrait de Vincent Van Gogh. Et ma foi, le film évidemment joue de ça, mais ne joue pas que de ça. Kirk Douglas était quand même un très grand acteur et donc il réussit à donner ce côté brûlant, sauvage, rageur, tourmenté, à la fois passionné et désespéré, qui était sans doute celui de Vincent Van Gogh. Et à ses côtés, Anthony Quinn, qui obtint pour l'occasion l'Oscar du meilleur second rôle, eh bien, il interprète tout simplement le rôle de Paul Gauguin, ma foi, pourquoi pas. En tout cas, le film se tient bien et il faut dire qu'il y avait, je dirais, un générique de choix aussi derrière l'écran, puisque on avait le grand Russell Harlan à la photographie, ô combien importante pour un film comme celui-là, Walter Plunkett au costume, et le film était inspiré d'un roman d'Irving Stone, qui était une évocation un peu romancée de la vie de Vincent Van Gogh. Contrairement à beaucoup de productions américaines, l'ensemble fut tourné sur place, a priori à peu près dans les lieux où vécut et peignit Vincent Van Gogh, ce qui donnait donc une certaine authenticité à la chose, même s'il y avait évidemment des décors de studio. Et au final, eh bien, les presque 2 heures de cette vie passionnée, ma foi, étaient effectivement passionnées et passionnantes. La bande originale de ce film, elle était signée, là encore, d'un grand Miklos Rossa. On en écoute un extrait, Lust for Life, alias La vie passionnée de Vincent Van Gogh, dans 24 notes secondes.
Thank you.
Le lyrisme typique de Miklos Rossa pour un extrait de la bande originale de La vie passionnée de Vincent Van Gogh, un film de Vincente Minnelli, est-ce que je l'avais dit, tourné en 1956 avec Kirk Douglas dans le rôle de Vincent Van Gogh. En anglais, ça s'appelait Lust for Life, alors plutôt le désir de vivre, mais un désir un peu désespéré, une sorte de, je dirais, de passion sans espoir pour la vie qui était celle de ce peintre tourmenté. On vient d'évoquer Gauguin, eh bien on va écouter un extrait de la bande originale. Alors une fois n'est vraiment pas coutume, car je le reconnais et je le regrette, c'est bien rare dans 24 notes secondes d'un documentaire, mais un documentaire qui bénéficiait, et là encore c'est bien rare, d'une bande originale sortie commercialement. Un documentaire réalisé en 2016 par Marie-Christine Courte, ça s'appelle « Gauguin, je suis un sauvage », une évocation de la démarche extrême de Paul Gauguin, qui vécut entre 1848 et 1903, et dont on sait qu'il eut un parcours lui aussi assez tourmenté, à l'image de celle de son ami Vincent Van Gogh. La musique, elle est signée de Nicolas Martin, et on en écoute un extrait. Gauguin, je suis un sauvage, mais dans 24 notes secondes. Piano et que du piano pour un extrait de la bande originale de Gauguin, Je suis un sauvage, un documentaire de Marie-Christine Courte, de musique de Nicolas Martin. Vous êtes bien dans 24 notes secondes et nous évoquons des peintres. On vient d'évoquer Vincent Van Gogh et Gauguin deux fois. On va passer à quelqu'un d'autre, en l'espèce à Gustav Klimt, un peintre viennois bien connu qui vécut entre 1892 et 1918, non, plutôt qui fit sa carrière entre 1892 et 1908. Je vais vérifier après et je vous dirai. Un peintre viennois bien connu et fort, je dirais, reproduit en cartes postales et autres. Et en 2006, eh bien, Raoul Ruiz fit une évocation plus qu'une biographie de Gustav Klimt dans un film bien à sa manière, une manière un peu kaléidoscopique, où le personnage de Raoul Ruiz, qui était interprété par John Malkovich, ma foi, pourquoi pas, un peu comme Kirk Douglas en Vincent Van Gogh, était évoqué de façon certes pas à l'américaine biographique chronologique de base, mais de façon plutôt onirique dans toutes les dimensions esthétiques du personnage et de son époque, qui était celle de l'esprit viennois du début du siècle. La musique de ce film, elle était signée de Jorge Arriagada, et on va écouter un bel extrait, un petit extrait, mais un bel extrait, Klimt, un film de Raoul Ruiz en 24 notes secondes.
Thank you.
Je vous l'avais dit que ce serait un bien bel extrait de la partition de Klimt, un film de Raoul Ruiz tourné en 2006, une évocation de la vie de Klimt, 1862-1918 et non pas 1892, comme le disait ma petite fiche. Les têtes vont tomber du côté de la documentation de 24 notes secondes, je ne vous dis que ça. On va rester avec les peintres avant de faire tomber les têtes et on va écouter maintenant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1965, donc on remonte dans le temps, mais ça n'a vraiment aucune importance. C'est un film qui mettait en vedette Charlton Heston et Rex Harrison pour une évocation de la peinture de la chapelle Sixtine. Et j'avoue que dans le côté un peu vieux con, je suis assez étonné que dans les années 60, on faisait des super productions avec un film consacré au fait de peindre par Michel-Ange, peut-être le savez-vous, la chapelle Sixtine. Maintenant, on n'est plus que des super-héros, ce genre de choses. À l'époque, on faisait des films avec des vrais sujets, il me semble. Et en l'espèce, le film était adapté, comme tout à l'heure, La vie passionnée de Vincent Van Gogh, d'un roman d'Irving Stone. Mais le roman raconte la vie de Michel-Ange en son entier, tandis que le film, et il le fait bien, se concentre sur les rapports assez difficiles entre Jules II, le pape du Vatican, bien sûr, qui commande à Michel-Ange la peinture du plafond de la chapelle Sixtine et le dit Michel-Ange qui est avant tout un sculpteur et qui par conséquent au départ a beaucoup de mal à se laisser convaincre de peindre, il n'est pas très content. En fait, la peinture de la chapelle Sixtine dure quand même 4 ans. En même temps, quand on voit le résultat, 4 ans, ça paraît peu. Et le film bien reconstitue, alors évidemment en studio, hein, on n'a pas tourné au Vatican, mais on a reconstitué la chose pas très loin de là, dans les studios de Cinecittà à Rome. Et ma foi, le film est de belle tenue. Charlton Heston et Rex Harrison sont, je dirais, deux beaux acteurs qui font deux beaux numéros. Et la prestance de Charlton Heston en Michel-Ange est quand même assez étonnante dans notre série Vieux Con. Ajoutons aussi que le film était précédé d'un prologue, mais le prologue durait une bonne quinzaine de minutes. C'était une sorte de documentaire sur la vie de Michel-Ange, cette fois sculpteur, the artist who do not want to paint, c'est-à-dire l'artiste qui ne voulait pas peindre. Donc effectivement, à part la chapelle Sixtine, et à ma connaissance, Michel-Ange a surtout sculpté. Donc là encore, ça laisse rêveur, on allait voir ce genre de choses. Et je peux vous assurer que pour l'année de sortie, 1965, c'était un des plus gros budgets de l'année et que le réalisateur, Carol Reed, eh bien, c'était l'homme du troisième homme et de quelques autres films, un des plus solides. La musique de ce film, pour ce qui est du prologue, était signée de Jerry Goldsmith, mais c'est pas ça qu'on va écouter. On va écouter un extrait de la vraie bande originale qui était signée d'un des maîtres de Jerry Goldsmith, en l'espèce Alex North. L'extase et l'agonie, en anglais c'est l'inverse, The Agony and the Ecstasy, dans 24 notes secondes.
Thank you.
La puissance d'Alex North pour un extrait de la bande originale de L'Extase et l'Agonie, un film de Carol Reed, Charlton Heston, Michel-Ange et Rex Harrison, Jules II. Alors on a beaucoup parlé de peintres étrangers, hein, si on parlait un peu de peintres français. Donc on va écouter maintenant un extrait de la bande originale d'un film relativement récent, un film de 2016, tourné par Daniel Thompson, dont on se souviendra peut-être qu'elle était la fille de Gérard Oury, si je me souviens bien. Un film intitulé « Cézanne et moi » et qui raconte justement l'amitié entre un peintre et un écrivain. Alors le peintre, vous l'avez deviné, il s'agit de Paul Cézanne, qui dans le film était interprété par Guillaume Gallienne. Et l'écrivain, eh bien, c'est comme les personnes qui connaissent un peu la vie de Cézanne le savent, eh bien, c'était Émile Zola. Émile Zola qui dans ce film, choix un peu improbable pour moi, mais bon, était interprété par Guillaume Canet. Et donc le film racontait plus l'histoire de leur amitié que la peinture même de Cézanne, à vrai dire, contrairement à La vie tourmentée de Vincent Van Gogh. Il y avait peu de choses à dire, en tout cas sur la vie intime et de Cézanne, qui a été loin d'être aussi passionné au sens évidemment dramatique du terme. Allez, on écoute un extrait de cette bande originale, Cézanne et moi, elle est signée d'Éric Neveu dans 24 notes secondes. Un extrait de la bande originale signée par Éric Neveu pour Cézanne et moi, un film de Daniel Thompson tourné en 2016, mais moi c'est pas moi, hein, vous l'avez compris. Et on va se quitter en écoutant un extrait de la bande originale d'un film de Peter Weber, sorti quant à lui en 2003. Ça s'appelle La jeune fille à la perle, je pense que du coup les plus cultivés d'entre vous auront compris qu'il s'agit d'une évocation de la vie de Vermeer, dont c'est un des tableaux les plus célèbres. Vermeer interprété dans le film par Colin Firth, pourquoi pas. Et la jeune fille à la perle, eh bien, c'est Scarlett Johansson. Alors le film est une adaptation d'un roman qui connut un gros succès de Tracy Chevalier. Évidemment, c'est une évocation imaginaire. On n'en sait pas trop sur qui est cette jeune fille à la perle qu'on voit sur ce magnifique tableau. Mais en tout cas, Tracy Chevalier et à sa suite, donc Peter Weber, imagine que c'est une servante qui a été engagée par le peintre pour s'occuper de sa nombreuse famille, puisque l'homme avait quand même 6 enfants. Donc, effectivement, de quoi s'occuper. Et c'est donc elle se retrouva à poser pour un des plus fameux tableaux du monde. La musique du film, elle est signée d'Alexandre Desplat. On en écoute un bel extrait. La jeune fille à la perle, 24 secondes. « Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.